Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Au terme de cette série de leçons sur les confédérations, quelques confédérations, de manière un peu peut-être prématurée, nous allons parler aujourd'hui de la Troade. Rien de commun, de prime abord, entre cette association de cités de la Troade, donc au nord-ouest de la péninsule de l'Asie mineure, qui n'a pas de fondement ethnique, et une confédération ethniquement très homogène, telle que celle du Koinontoun Lukioun, dont il a été question la semaine dernière. La géographie les rapproche tout de même un peu, en Asie mineure, et surtout à l'examen, l'histoire est d'abord le mythe. La géographie, évidemment, puisque l'on reste sur cette façade maritime de l'Asie mineure, de part et d'autre de l'Ionie, où s'était développée, on l'a vu, cette ligue des 12 puis 13 cités, Koinon Ionon, s'étendait de la ville de Smyrne, au nord, qui était elle-même voisine, au moins directement, de la Troade, par l'Éolide, et jusqu'à Milet, pour l'Ionie, qui était toute proche du domaine caro-lycien, et donc, par là, de ce Lukiakon Sustema, cher à l'Éphésien Artémidore, source de Strabon pour la Lycie. Sur le plan historique, il y a au moins une analogie dans le fait que l'association des villes de Troade, tout comme la confédération lycienne, n'apparaît pas avant l'époque hellénistique, ce qui fait évidemment une grosse différence avec le vénérable Koinon des Ioniens, sans parler des confédérations de Grèce propre, profondément enracinées jusque dans l'époque archaïque. Enfin, ces deux ensembles de cités, sur l'Hellespont et dans la plus lointaine Lycie, ont eu avec Rome, à partir du début du IIe siècle, des rapports qui ne sont pas sans similitude. C'est du reste grâce à Ilion, reconnu assez tôt comme patrie, vous le savez, originelle des Romains, et traité par eux en allié privilégié dès l'époque de leur premier contact avec le monde grec. C'est grâce à cette récupération politique de la légende d'Énée et du mythe troyen de la fondation de Rome que les Lyciens eux-mêmes, chose notable, ont pu à leur tour se reconnaître une sorte de parenté indirecte avec les Romains. N'avaient-ils pas été parmi les plus fidèles alliés du roi Priam durant la guerre de Troie? Venu de la lointaine Lycie, Téloten Lukiès, le prince Sarpédon, encore honoré comme héros éponyme d'une tribu de Xanthos, la Sarpédonis, à l'époque hellénistique, ce Sarpédon avait même trouvé la mort devant les murs d'Ilion, tout lecteur d'Homère le sait bien, comme il connaît aussi la bravoure de Glaucos le Lycien face à l'Achéen Diomède. C'est pourquoi le poète pouvait ranger coude à coude dans la bataille les Troyens, les Lydiens et les Dardaniens, peuple du fils d'Anchise, donc d'Aîné, Troès, kai Lukioi, kai Dardaneis, Ankimakentai, un vers qui apparaît souvent. La toponymie elle-même témoignait en faveur de l'étroitesse de ces liens, puisque au fleuve Xanthos, arrosant la Lycie, on l'a vu, répondait le Xanthos de la plaine de Troie, autre nom du célèbre Scamandre. Il ne fait pas de doute que cette fraternité d'armes, en un temps lointain, à défaut d'une véritable parenté de sang, était présente à l'esprit des Lyciens hellénisés. On l'a retrouvé ainsi au Letton de Xanthos, décret où les gens de cette ville honorent, en 196 avant Jésus-Christ, voilà, c'est ce document, à une époque où Xanthos était soumise aux Séleucides, un rhéteur d'Ilion, Thémistoclès, comme vous voyez, Thémistoclès, fils d'Aesculos, de beau nom, s'il en est, Ilios, pour s'être montré digne de la parenté entre eux, les Xanthiens donc, et les Iliens. Thès, Uparcousès, Emin, Pros, Iliais Sungeneias. Et cela, lors d'un assez long séjour qu'il fit dans leur ville, en y donnant la démonstration de ses talents oratoires. Comme l'ont bien montré Jeanne et Louis Robert en publiant ce document en 1981, il est certain que Thémistocles fit abondamment état de cette parenté mythique qui flattait son auditoire. Mais il s'agissait d'une chose sérieuse, utilisable politiquement au plus haut niveau. Rien ne le montre mieux, en l'occurrence, qu'un épisode survenu 10 ans plus tard, au lendemain de la célèbre paix d'Apamée, donc de 189, qui, on s'en souvient, cette paix qui livrait la Lycie aux Rhodiens. Eh bien, à ce moment-là, les gens d'Ilion, nous dit Polybe, au livre 20, intervinrent auprès de leurs parents, les Romains, en faveur des malheureux Lyciens, à cause de l'oikeiotes, c'est le terme utilisé par Polybe ici, terme peut-être un peu moins fort que sungeneia, c'est la familiarité, existant entre eux, les Iliens et les Lyciens. Certes, les ambassadeurs d'Ilion ne réussirent pas d'emblée à obtenir gain de cause, on l'a vu, il fallut attendre 20 ans pour la libération de la Lycie, mais cela ne saurait avoir nui au prestige que le mythe troyen devait avoir auprès des Lyciens. C'est pourquoi je me demande s'il n'y aurait pas une réminiscence homérique, référence homérique, à chercher dans le nombre des villes qui, on s'en souvient, constituaient le koinon ton lukion, qui avait été fondé justement dans ces années-là, soit 23, selon Artemidore. Achille, en effet, au chant 9 de l'Iliade, vers 328 et suivant, là où il se plaint de n'avoir pas été traité en proportion de ses services, dit avoir, dès son arrivée devant Troie, saccagé 12 villes maritimes, Dodeca, Polais, Sunnausin, et 11 autres sur terre, dans la riche Troade, Petzos, Dendeca, Femi, Catatroyen, Eribolon. 12 plus 11, donc exactement 23 au total, une espèce de référence mythique. Mais bien sûr, ce n'est là pour le moment qu'une hypothèse faite en passant. L'association des villes de Troade n'a fait qu'assez tardivement son entrée dans les études consacrées au fédéralisme grec. Ainsi, on en trouve encore nulle mention chez Freeman, History of Federal Government, de 1862. Cela s'explique par une raison bien simple, c'est que cette ligue n'apparaît nulle part chez les auteurs anciens, et pas même chez Strabon, dans la partie de son ouvrage consacrée à la Troade, début du livre 13, bien qu'en fait, aucune région du monde grec n'ait fait l'objet de sa part d'une plus grande attention dans le sillage des commentateurs d'Homère. Je demandais si une carte que j'emprunte à Cook, Troade, sur la connaissance qu'avait Strabon de cette Troade, grâce notamment à Démétrios de Skepsis, au début du IIe siècle avant notre ère, cet écrivain local, Épicurios, Entopios, dit Strabon, et donc observateur direct, expérimenté, Emperos, qui était natif lui-même d'une cité, Skepsis, ayant fait partie du koinon de Troade, et qui avait consacré un ouvrage de 30 livres, 30 rouleaux, pour commenter les quelques 65 vers du catalogue troyen au chant 2 de l'Iliade. Mais si le géographe n'a pas jugé bon de nous éclairer sur ce koinon, qui pourtant existait toujours de son temps, il nous fournit en revanche, grâce à ses abondantes lectures, d'utiles informations sur la localisation et l'histoire des villes de Troade, sur les phénomènes de concentration, de synécisme, comme on dit, qui s'y produisirent à la haute époque hellénistique. Malgré cela, il faut bien voir d'entrée de jeu qu'on ne dispose pas, pour ce koinon, d'une description équivalente à celle que le même Strabon nous offre pour la Lycie, sans parler de ce que Polybe nous révèle sur le koinon à Caio, ou de ce que l'on peut glaner chez cet auteur et chez Tite-Live pour les autres confédérations, la lettonienne, la béotienne et d'autres. Nos sources sont donc essentiellement épigraphiques et secondairement numismatiques, ce qui comporte à la fois un inconvénient, l'absence d'exposés synthétiques, et aussi un avantage, la présence d'une documentation de première main. On notera que certaines de ces inscriptions sont connues depuis longtemps, voire très longtemps. Le vieux corpus de Boek, tome 2, 1843, contenait déjà quelques-unes, notamment des pierres de la collection Choiseul-Gouffier, apportées au Louvre, un traité entre les Iliens et une petite communauté des Scamandriens, et l'inscription que vous avez sous les yeux, numéro 3064, c'est une inscription honorifique, donnant-la peut-être en transcription, une inscription honorifique sur ce piédestal, qui émane des Iliais kai ai poleis koinonous ai testusias, kai tu agonos, kai tes panegureos, les gens d'Ilion et les cités qui ont part au sacrifice, au concours et à la panégyrie. Ce libellé ne laissait pas d'être un peu mystérieux, puisque la fête n'était pas expressément désignée et que l'on n'avait aucun indice sur le nombre et l'identité des cités ainsi associées. Au surplus, l'inscription ne datait que du début de l'époque impériale. Elle honore même, en fait, l'empereur Auguste lui-même, divinisé, fils du divin César. On comprend donc que l'Anglais Freeman, encore une fois, qui jugeait avec un certain dédain, on l'a observé plus d'une fois, ces fantômes de confédération qui étaient à ses yeux les koinats de la période romaine, n'ait pas cru devoir en tirer parti. Mais les choses allaient changer, et assez vite, avec l'intensification, dès la fin du XIXe siècle, on peut le dire, des recherches archéologiques en Troade. On connaissait dès alors le site de la ville d'Ilion, la nouvelle Ilion, comme on croyait devoir le préciser, dans la mesure où Strabon distinguait cette nouvelle Ilion de l'Ilion de Homérique, qui, suivant ses sources, car il n'avait pas vu les choses lui-même, qu'il plaçait davantage vers l'intérieur des terres. Dans une localité qu'il appelle le village des Iliens. Voilà donc le site de Troie d'Ilion. Strabon la cherche beaucoup plus à l'intérieur, enfin quelques kilomètres à l'intérieur, carte ancienne que vous avez sous les yeux. Mais les fouilles entreprises dès 1870 sur la butte d'Isarlik, bien connue, qui est le site de l'Ilion hellénistique d'abord, par le fameux Heinrich Schliemann, devait rendre rapidement caduque cette distinction avec la fouille de la butte elle-même d'Isarlik. On sait en effet avec quel succès, dans la partie nord-ouest, ce négociant métamorphosé en archéologue explora les couches les plus anciennes de la butte, découvrant des vestiges de cités proto-historiques, dont l'une devait être la fameuse ville de Priam. Mais ces fouilles le conduisirent aussi, et cela, on le sait d'ordinaire moins bien, à la découverte de monuments et de documents nettement plus tardifs, pas moins intéressants cependant, pour l'histoire de la ville à travers les âges. Or, parmi les assez nombreuses inscriptions mises au jour par Schliemann, il s'en trouvait quelques-unes qui se rapportaient à ce koinon, mais de façon plus ou moins cryptique, comme cette liste ici, des listes d'amendes infligées à des cités récalcitrantes ou défaillantes que Schliemann publie dans son livre en français, Ilios, Ville et pays des Troyens en 1885. Mais il ne la comprend pas. Il a fallu d'ailleurs que, bien plus tard, Louis Robert, dans un livre sur lequel je reviendrai, à la lumière d'autres documents, interprète ce fragment comme justement une liste d'amendes. Plus tard, on en trouva encore d'autres dans les fouilles de l'époque de Dorpfeld, des années 1880-90, comme celle-ci. De nouveau, un document financier, plutôt un règlement concernant les devoirs des agonothètes, cette fois, dans l'organisation de la fête. Et puis surtout, la partie supérieure d'un document que vous avez dans votre dossier, bon, une vue de la fouille ici de Dorpfeld, où ont été trouvées les inscriptions, et un document sur lequel je reviens dans un instant. Donc, le symphonon et homologon, une espèce d'accord conclu, on l'a pu l'établir en 77 avant Jésus-Christ, entre les villes, au sujet justement de la fameuse panégyrie, Thais Polesi Uper Tes Panegureos, avec une liste de députés, l'annonce d'une réduction temporaire du taux d'intérêt pour les emprunts contractés par les cités en raison de leur détresse financière. Dia tas ton poleon slipseis. On est effectivement après la guerre contre Mithridate. Ce document, alors fragmentaire, c'est Alfred Bruckner qui le fit connaître en 1902 dans un splendide volume Troia und Ilion, dédié à l'empereur Guillaume II. Et ce document a été aussitôt inséré par Dittenberger dans son recueil de base sur les inscriptions de l'Orient grec, tant il était important. Et c'est à ce Bruckner que l'on doit en fait la première étude sur la Confédération des villes de Troade, qu'il voyait comme une ligue placée en fait sous l'hégémonie d'Ilion. Parmi les personnalités de l'âge héroïque, il faut faire également une place à Frank Calvert, consul d'Angleterre sur les Dardanelles, qui, grâce à son implantation dans la région, put non seulement se procurer beaucoup d'objets, réunis d'abord dans sa maison de campagne, puis dans le musée créé postérieurement à Çanakkale, donc sur l'Hellespont, mais surtout acquérir des connaissances tout à fait exceptionnelles en matière de topographie antique. C'est lui, d'ailleurs, on l'oublie, qui eut le mérite d'identifier la butte d'Issarlique à Ilion, avant Schliemann, de localiser également le sanctuaire d'Athéna. Il est également l'inventeur d'un très beau document épigraphique dont vous avez un estampage partiel sous les yeux et qui est dans votre dossier. C'est le décret des villes de Troade pour Malusios, Malusios est un beau nom épicorique, local, de Gargara, document si important et par sa date encore haute, vers 300 avant Jésus-Christ, et par son riche contenu pour l'histoire de la Confédération. Il a été publié dès 1875, et c'est une inscription célèbre qui a été reprise dans nombreux recueils, dont nous avons une traduction française chez Mijotte, l'emprunt public dans les cités grecques, numéro 79. Ce document demeure, on peut dire, une des pièces essentielles du dossier. Un nouveau tournant dans l'histoire de la recherche a été marqué à l'extrême fin du XIXe siècle, par la publication d'une inscription qui, elle, ne fut pas trouvée au voisinage d'Ilion, mais près du site de la ville de Parion, nous en reparlerons, le Parion, au débouché septentrional de l'Hellespont, donc assez loin de Troie. Et le premier éditeur, Philippe le Grand, qui est bien connu des lecteurs d'Hérodote, puisque c'est lui qui a traduit cet auteur dans la collection des universités de France, il avait vu tout naturellement un décret de cette cité de Parion, où la pierre avait été trouvée. Mais quelques années plus tard, en 1896, l'épigraphiste Maurice Hollot, qui s'était déjà fait connaître à cette date par des études historiques très pénétrantes, démontra qu'on avait en réalité affaire à un décret fédéral dont l'exposition à Parion s'expliquait par le fait que le personnage honoré, ayant officié en tant qu'agoranome, Le mot agoranomos figure là, ligne 7, donc responsable du marché, lors des Panathénées, la grande fête, était un citoyen de Parion. C'était une pratique normale. La mention d'un synédrion, tout à fait intéressant, tone synédron, il ne faut pas tenir compte de la restitution de ecclesiae, qui est contradictoire, et il faut écrire aujourd'hui, on peut écrire aujourd'hui, gnome tone synédron. Sentence des synèdres. Et donc, il avait été publié sous le titre Un décret du koinon des villes de Troade. Ce mémoire a été repris ensuite dans les études d'histoire et d'épigraphie grecque de ce grand savant en 1938, puis réimprimé beaucoup plus récemment encore. C'est une contribution tout à fait majeure, quoique parfois méconnue, pour la compréhension de ce qu'a été ce koinon dans l'espace et dans le temps, puisque le document en question datable de la fin du IIIe siècle fut exposé dans une cité qui ne faisait pas partie stricto sensu de la Troade, étant encore plus éloignée d'Ilion que Lampsac. Lampsac, dont la participation était dès alors attestée par le décret justement pour Malusios de Gargara, car un Lampsacénien apparaît tout à la fin du document. Et puis on trouvait aussi Lampsac déjà dans le Symphonon que vous avez dans votre dossier. Pour ce qui est de la première moitié du XXe siècle, ou disons mieux de la période d'entre-guerres, on peut citer quelques contributions intéressantes. D'abord le livre du philologue anglais Walter Leaf, Strabo on the Strand, 1923, important pour la géographie historique, puis surtout l'étude rigoureuse de l'érudit allemand Erich Preuner, qui parvint à compléter de façon extrêmement, disons, on peut dire, à la fois astucieuse et rigoureuse, le fameux symphonon, le fameux accord, dont on connaissait seulement la partie A, trouvée dans les fouilles de Dorpfeld. Et lui, il a réussi à reconstituer une partie B à l'aide de plusieurs fragments, dont l'un était déjà connu de Boeck, une espèce de puzzle qu'il a donc réuni, publié tout cela en 1926 dans un article de la revue Hermès, sous le titre « Di Paneguris der Athena Ilias ». Car en fait, la nouvelle partie B avait un caractère assez différent de la première, c'était en fait un règlement sur la fête elle-même, sur ce qu'il y avait à faire par rapport à la procession, pompée, au sacrifice, au concours. Donc on peut dire que cette partie-ci, c'est une véritable loi sacrée, comme on dit. Et le document, dans son ensemble, est très remarquable. Un peu plus tard, dans l'American Journal of Archaeology de 1935, c'est un archéologue et proto-historien bien connu, John Caskey, qui fit connaître brièvement, car ce n'était pas tout à fait sa spécialité, une inscription trouvée dans la continuation des fouilles de Troie par une mission de l'université de Cincinnati. Il s'agit d'une base de statues, vous voyez, une base en forme de colonne, avec une inscription honorifique passablement développée pour un citoyen d'Ilion, dont la date paraissait très incertaine, oscillant entre 100 avant et 100 après Jésus-Christ, mais on voyait donc que ce personnage avait justement rendu service à la communauté des villes de Troade. Personnage qui s'appelait Agathès, fils de Ménophilos. Eh bien, aussitôt après, en 1936, dans la revue de numismatique, Louis Robert vit que c'était un notable qui se retrouvait en réalité dans des monnaies sur lesquelles je reviendrai, des monnaies de la Confédération, dont le monétaire était justement Agathou, tout Ménophilou, d'Agathès, fils de Ménophilos. Donc un lien très intéressant aussi pour la chronologie, entre le monnayage et les inscriptions. Je reviens sur ces monnaies dans un instant. Cette note du grand épigraphiste français devait en fait inaugurer une série de contributions majeures à l'étude des antiquités de la Troade. En 1951, en effet, Robert consacrait un très gros chapitre, le premier, de ses études de numismatique grecque, avec des pages très importantes du point de vue de la méthode aussi, sur la géographie politique de la Troade, qui est tout sauf simple en raison des grands changements survenus dans l'histoire de maintes cités, en raison justement de ces phénomènes de cynécisme. Et évidemment, on ne peut pas s'en désintéresser tout à fait, puisque ces phénomènes ont des implications pour la liste et le nombre des cités de la Confédération. Si Robert, dans ce mémoire, ne s'occupait que marginalement du koinon, de son extension à l'intérieur comme à l'extérieur de la Troade, ce n'était pas son propos alors, il y revint une quinzaine d'années plus tard, en 1966, dans ses « Monnaies antiques en Troade ». Petit livre, petit par le nombre des pages seulement, hein, qui, sous ce titre un peu technique, contient ou dissimule d'une certaine façon la plus importante des études parues à ce jour sur la Confédération d'Athéna Ilias. L'intérêt du livre est multiforme, on peut le dire. L'apport le plus évident tient sans doute aux inscriptions, publiées là de manière totalement impromptue, avec une compétence indiscutable, mais on peut dire comme au détour d'une phrase, sans crier gare, dans cet ouvrage que de prime abord, on pouvait croire voué tout entier à la numismatique. Et deux d'entre elles sont tout simplement capitales. Louis Robert les avait copiées peu d'années auparavant, en 1963, lors d'un voyage qu'il avait fait dans cette partie de l'Asie mineure avec son épouse. Et elles étaient au musée de Çanakkale, le musée de Calvert, le musée de l'ancien consul. La première de ces inscriptions est un long décret que nous verrons aussi au séminaire. Vous avez ici une vue partielle de l'estampage. Il y a deux fragments qui se présentent ainsi, un fragment A et un fragment B. Dans la présentation de Robert, les deux morceaux sont présentés comme s'ils ne se raccordaient pas. En réalité, ils doivent se raccorder, car il est assez aisé, avec l'éditeur aussi des inscriptions d'Ilion, Frisch, Inscription von Ilion, on parle des villes qui participent au sacrifice, au concours, à la panégyrie, et on peut ajouter Thès Panégreus, Thès Athénas, hein, et puis une nouvelle phrase qui commence avec les honneurs. Le décret émane alors clairement de la Confédération, des synèdres, on le voit par la suite. Il faut cependant admettre, ce qui n'apparaît pas ici, qu'il y avait un intitulé qui a disparu en réalité, un intitulé que l'on voudrait bien avoir, avec la mention, on y reviendra, des agonothètes notamment. Car on peut comparer ce document, c'est ce que nous ferons tout à l'heure au séminaire, avec un document tout récemment découvert et publié. Donc, le décret honore un citoyen d'Abydos, sur l'Hellespont, Cudimos, fils de Cudimos d'Abydos, qui a été gymnasiarque, bon, responsable des athlètes et des jeunes gens, lors de la fête d'Athéna à Ilion. Hein, Ilion est toujours au cœur de la Confédération et de la fête. La seconde inscription est une inscription financière, document financier, lui aussi de très grande importance, dont l'intérêt réside notamment dans les indications qu'il fournit sur l'extension du koinon à cette date, non seulement par la liste des cinq agonothètes, plus leur secrétaire, avec des villes qui sont mentionnées, on y reviendra, mais aussi par la présence totalement inattendue, on peut le dire, Dans le corps du texte, à propos justement d'amendes infligées ou de punitions infligées à des cités qui ne remplissaient pas leurs devoirs, deux cités donc inattendues, je vous le montre dans un instant sur une carte, Calcédoine, en face de Byzance, sur la côte asiatique du Bosphore, et la petite ville de Myrléa, Myrléanone, donc les deux sont mises en contravention par la Confédération. Je crois que j'ai une carte là, avec, vous voyez que Troie est si loin qu'on ne la voit même pas sur cette carte, Calcédoine en face de Byzance, bien connue, et puis Myrléa est une petite cité ici qui se trouve à l'est de Cyzique, mais du côté de Chios, Chios avec K, donc pas l'île, à peu près ici. Nous sommes vraiment assez loin. La mention de Myrléa est d'ailleurs intéressante pour la chronologie, car on sait que cette ville fut détruite par le roi Philippe V de Macédoine en 202 avant Jésus-Christ, débaptisée, renommée ensuite Apamea, par le roi Prusias de Bithynie. On est donc forcément avant cette date, qui est, on peut dire, un tournant historique, marqué également par le traitement épouvantable qu'eut à subir en l'an 200, du fait de ce même Philippe, la ville du passage, ici, la ville d'Abydos, cette ville dont Cudimos, fils de Cudimos, était donc un ressortissant, un peu avant. Effectivement, cette ville a été très maltraitée, la population s'est donné la mort, en l'an 200. Mais on verra que donc cette extension considérable de l'association vers l'est jusqu'aux portes de Byzance, avec l'entrée d'une cité de tradition mégarienne comme Calcédoine, qui n'avait pas de lien commun très fort avec les cités de Troade, qui étaient soit ioniennes, soit plutôt éoliennes, cette association fut sans doute très temporaire. Et rien n'implique en tout cas que toutes les villes situées dans l'intervalle, comme notamment la très grande cité de Cyzique, la milésienne Cyzique, aient jamais fait partie du koinon d'Athéna, il y a, sauf preuve du contraire. L'autre intérêt majeur du livre de Robert, c'est le lien, évidemment, que ce savant établissait une fois de plus entre l'épigraphie et la numismatique. En fait, il s'agissait de montrer, c'est même le point de départ du livre, que le numéraire, le monnayage étudié par le numismate Alfred Bellinger, dans le cadre d'une monographie sur les monnaies trouvées dans les fouilles américaines de Troie, à l'université de Cincinnati, ne pouvait tout simplement pas être compris, ce monnayage, sans le recours aux inscriptions. Il y a en effet une série d'émissions en argent, des drachmes, surtout des tétradrachmes, comme ici, avec l'effigie d'Athéna, hein, de type un peu comme l'Athéna de Phidias, au droit et au revers, une statue en pied de la même divinité, c'est le fameux Palladion de Troie, hein, statue mythique, on peut le dire, qui avait été forcément refaite à l'époque hellénistique, avec la légende très remarquable, Athénas Iliados, au génitif. Bon, cette légende, certes, se retrouve, une légende de ce type, se retrouve dans d'autres ateliers de la région, qui portent ainsi le nom d'un dieu avec son épiclèse, type, justement, on peut citer cet exemple de Thasos, qui n'est pas très éloigné, Thasos, avec la mention d'Héraclès et Héracléos Soteros. Hein. Mais il y a une différence essentielle, malgré toutes les ressemblances entre les monnaies de ce type et celles d'Athénas Iliados, parce que, si on revient au nôtre, il n'y a pas d'ethnique, il n'y a pas de nom de ville, hein, pas de nom de peuple, il n'y a pas de Iléon, comme sur d'autres séries qui émanent, alors, sont des bronzes, qui émane de la cité d'Ilion. Alors, la seule manière d'expliquer ce trait singulier, c'est d'admettre, et comme justement l'a montré Robert, au vu des inscriptions, que ces monnaies d'Athéna Ilias n'ont pas été frappées par la cité d'Ilion, même si l'atelier pouvait se trouver sans doute à Ilion, mais par l'ensemble des villes qui participaient au culte d'Athéna, à cette panégyrie. Ces monnaies sont donc à considérer comme un numéraire servant à financer la fête, le concours organisé par la Confédération, grâce aux contributions que, justement, les cités étaient astreintes verser. Et alors, il faut noter aussi la présence, en lieu et place d'un ethnique, d'un nom, d'un anthroponyme, au génitif, toujours, qui est le monétaire. Mais ce monétaire n'est pas, comme l'avait admis curieusement Bellinger, le nom d'une espèce de nabab ou de Richard qui offrait le monnayage à sa cité et qui, par vanité, faisait inscrire son nom. Non, c'était tout simplement le nom du magistrat principal du collège des agonothètes qui avait à surveiller les missions monétaires. Et ce qui le prouve, c'est que certains de ces noms, on en a vu un exemple tout à l'heure, se retrouvent à la fois sur les monnaies et dans les inscriptions où ils apparaissent comme magistrats. On voit toute l'importance de cette étude qui, de fait, demeure, encore une fois, la référence essentielle sur le koinon d'Athéna Ilias, plus de 40 ans après sa publication. Il y a eu depuis, cependant, quelques compléments apportés à la documentation, une inscription très fragmentaire trouvée dans une autre ville, un petit peu le pendant de ce qu'on avait pour Parion, à Skepsis, dans le sud de... on verra encore le lieu de... l'emplacement de Skepsis, la patrie de Démétrios, au pied de l'Ida, venant confirmer, si besoin était, la participation de cette ville de Skepsis à la confédération d'Athéna Ilias. Cette cité de Skepsis qui a livré aussi, dans le même temps, au début des années 70, du vivant encore de Robert, un document intéressant. C'est un traité d'alliance entre Skepsis et une autre cité de la Confédération, Parion, justement, tout à fait au nord. Cité qui n'avait pourtant pas de frontières communes, mais des intérêts communs. Traité d'alliance à la fois et échange de citoyenneté, isopolitéia. Donc, si besoin était, ce document prouverait qu'il n'y avait pas de citoyenneté commune pour cette confédération, à la différence de ce qu'on avait pour la CAI, pour la Béotie. Il n'y avait pas d'ethnique qui qualifiait l'ensemble des cités, puisque deux cités pouvaient échanger leur citoyenneté, un cadre civique et non pas fédéral. En Troade, le progrès de la recherche, encore après 1970, a consisté surtout dans la publication sous forme de recueil, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est évidemment utile, sous forme de recueil, des inscriptions des diverses cités ou de plusieurs cités dans la série allemande des Inschriften von Kleinasien, où on a maintenant des recueils pour Parion, pour Ilion, etc., pour Alexandrie de Troade aussi, tout récemment, 97, cette ville formée assez récemment, à la fin du IVe siècle, sur la côte de la Troade. D'autres synthèses, celle de Cook, de l'anglais Cook, de Troade, An Archaeological and Topographical Study, de 1973, qui était un bon connaisseur, un peu comme un Calvert des temps modernes, de la région, pour la topographie, à laquelle, tout de même, encore dans ces dernières années, les années 80, Louis Robert contribuait par une étude monétaire intéressante, montrant que une petite cité de la Troade, qui s'appelle Larissa, avait émis des bronzes avec l'ethnique larissaïone, et que à partir d'un certain moment, les mêmes monnaies, les mêmes types exactement, portaient un autre ethnique, ptolémaïone. Conclusion inéluctable, la ville de Larissa a été baptisée Ptolémaïs au cours du IIIe siècle en hommage à un roi Ptolémée, et ça prouverait en même temps que cette cité assez humble subsistait à l'époque hellénistique, donc, et qu'elle était une membre potentielle de la Confédération. De même, un document parle dans le même sens, c'est ce qu'on appelle la liste des théarodoques de Delphes, de ces ambassadeurs sacrés, les théors, qui sont reçus dans les diverses cités. C'est un document politique, car seules des cités, ce que Cook ne voulait pas comprendre, curieusement, il a croisé le fer avec Louis Robert là-dessus, document politique, quand on a une ville comme Assos, comme Adramution, comme Antandros, comme Gargara, la ville du célèbre Malousios de Gargara, hein, Amaxitos, Larissa, c'est notre Larissa Ptolémaïs, Crémastè, etc. Ce sont toutes des petites cités qui sont potentiellement, ou sûrement, le cas de Gargara, membres de la confédération des cités de Troade. Avant d'en tirer parti, est-ce qu'ils sont encore rapidement, au vu de ce que l'on sait ou devine aujourd'hui, l'histoire de cette confédération d'Athéna-Ilias ? On peut le dire assez rapidement. Il est bien établi que ce culte d'Athéna-Ilias a connu un renouveau à la fin du IVe siècle, même si la ville, cette nouvelle ville d'Ilion, remontait à une époque plus ancienne, en tout cas à l'époque perse. Ce qui a marqué un tournant, de toute évidence, c'est la conquête de l'Asie par Alexandre, puisque nos sources nous disent clairement qu'Alexandre, à peine eut-il débarqué sur le sol de l'Asie, aurait voulu rendre hommage à Achille devant Troie, qu'il serait allé à Troie, soit avant la première bataille de 334, soit immédiatement après, comme le dit Strabon, selon qui Alexandre aurait fait des promesses aux Iliens de construire, de reconstruire leur temple et de les favoriser de toutes les manières. En tout cas, ce sont dans ces années-là, ou les années qui ont suivi immédiatement la mort d'Alexandre, après 323, que l'on voit la Confédération déjà sur pied, grâce au décret pour Malousios de Gargara, lequel, effectivement, est à placer aux alentours de l'année 306. Car il fait mention, une chose intéressante, d'un diadoque d'Alexandre, Antigone le Borgne, qui, dans une première partie de l'inscription, ne porte pas encore le titre royal, dans l'autre, le porte déjà. Nous sommes donc aux alentours de 306. Et ce que montre, d'une manière générale, ce document, c'est que l'association existe, qu'elle a une activité politique aussi, dans la mesure où on essaye d'obtenir d'Antigone Monophthalmos qu'il assure, garantisse l'autonomie et la liberté des cités. Donc, elles ont quand même des intérêts politiques en commun. Et le document montre surtout, peut-être, l'activité édilitaire à Ilion. On est en pleine, j'allais dire, boom économique. Grâce à Alexandre, peut-être grâce au diadoque, s'occupe du temple, le temple que déjà Dorpfeld, grâce aux indications de Calvert, avait trouvé en bordure de l'acropole d'Ilion, et sur lequel on a un certain nombre de documents, pour lequel on a notamment une fameuse métope à Berlin, datant des alentours de 300. Dans le décret pour Malousios, il y a plusieurs allusion à l'activité, justement, de construction, pas sur le temple à proprement parler, mais sur le théâtre surtout, théâtre indispensable pour la fête, pour le côté musical de la fête. Pour ce qui est du temple, il y a eu des discussions, je les signale au passage, entre spécialistes, parce que Strabon fait plusieurs mentions du naos, du temple véritable, Dans un passage où l'on s'est demandé s'il se rapportait en fait bien à Ilion ou à l'autre cité qui est construite, qui est fondée au même moment sur la côte, c'est Antigonéa d'abord, la ville d'Antigone, Monophthalmos, puis qui devient, ville fort importante pendant toute l'époque hellénistique et romaine, Alexandrie, Alexandria de Troade. Mais je constate en tout cas que dans les travaux les plus récents, un archéologue en tout cas spécialiste, Dieter Hertel, considère bel et bien que le temple d'Athéna est celui que mentionne Strabon et qu'on peut en attribuer la construction à l'époque du roi Lysimaque, donc dans les toutes premières années du IIIe siècle. Donc, ce décret pour Malousios, encore une fois, tout à fait important à bien des égards, montre qu'il y a des cités autour d'Ilion, hein, qu'il y a des cités autour d'Ilion, mais combien, voilà une carte de la Troade, c'est beaucoup plus difficile à dire. On voit, en tout cas, qu'on allait depuis Gargara, qui est ici, sur la côte sud, hein, mais qui n'était certainement pas isolé, et jusque sur l'Hellespont, vous aviez notamment la ville d'Abydos, la ville de Lampsac, hein, qu'on a déjà mentionné, celle de Parion, encore, voyez, toute la côte de l'Hellespont était adhérée à cette confédération. Et elles sont liées par un lien qui est, il ne faut pas le contester, fondamentalement religieux, mais où, encore une fois, les préoccupations politiques, dans une situation très fluide, où les cités doivent se protéger face à ces diadoques menaçants, le koinon pouvait peut-être constituer pour elle une espèce de bouclier de garantie de relative indépendance. Enfin, ce que met en pleine lumière cette inscription, c'est que, dès alors, le koinon possède des magistrats, des délégués, des agonothètes, une espèce de collège exécutif, si l'on veut, et des députés qui sont les synédroi, formant un conseil, un synédrion, sans parler de magistrats affectés à la construction des épistates et autres fonctionnaires. Au IIIe siècle, le destin des villes du koinon, évidemment, est largement tributaire des relations avec les rois, Lysimaque d'abord, jusqu'en 281, puis les Séleucides, je n'insiste pas là-dessus, enfin les Ptolémées, et pour finir, celui qui n'était pas le plus commode pour elle, ce roi Philippe de Macédoine, dont on a rappelé qu'il avait été un roi, en l'occurrence, un roi destructeur pour les cités du Détroit, ou des Détroits. Dans quelle mesure les cités firent front commun, face à ces diverses puissances, bien difficile de le dire pour le moment. L'appartenance même au koinon ne paraît pas avoir empêché les cités d'avoir des conflits entre elles, des rivalités de territoire, on en a quelques échos. Ce qui est le plus notable, du moins pour la période du début du IIIe siècle, c'est, encore une fois, la concentration de plusieurs cités à l'intérieur d'une grande, dans un seul territoire. Le cas est frappant pour Ilion elle-même, qui réunit autour d'elle les petites communautés des environs, parfois même assez loin, et surtout pour Alexandrie de Troade. Strabon en parle assez longuement. Mais ce qui est apparu aussi, et on l'a déjà deviné, c'est que dans le cours du IIIe siècle, il y a plutôt un mouvement de diécisme, de rupture de ces unifications qui étaient largement artificielles, ou qui étaient voulues par les rois, et contre laquelle les cités renaclaient beaucoup. Et dès qu'elles avaient une occasion de recouvrer leur indépendance, elles le faisaient. Strabon évoque le cas de Skepsis, qui est dans, donc, ici, dans la, Troie du Sud, avec aussi le cas de Kébren, qu'attestent les inscriptions. Et on a l'impression que vers 250, le nombre des cités de Troade a considérablement augmenté, après une période assez troublée. Le deuxième siècle a été peut-être une période plus calme pour cette confédération, d'abord sous le protectorat indirect des Romains, depuis la paix d'Apamée, et jusqu'à la création de la province romaine d'Asie en 129. En tout cas, le nouveau document que nous allons étudier tout à l'heure au séminaire, et qui date, d'après toutes sortes d'indices externes et internes, des alentours de 150, montre un koinon qui fonctionne normalement. En revanche, Ilion connaît des temps beaucoup plus difficiles à partir de la fin du IIe siècle. On voit que les Iliens en particulier ont perdu une partie de leur territoire sacré, donc le territoire d'Athéna, au profit des publicains dans la nouvelle province. Et surtout, c'est l'époque alors des guerres contre Mithridate, dont on a vu l'effet à travers le fameux Symphonon Kai Homologon, puisque ces cités, 10 ans après la guerre de Mithridate, sont totalement épuisées. Elles subissent, naturellement, en plus, elles subissent de véritables dommages. On le voit par le cas d'Ilion, on pourrait lire, je vous suggère de lire, ce qu'en dit Appien dans la guerre dans les Mithridatica, livre au chapitre 53, il y a un véritable saccage de la ville d'Ilion qui n'est pas protégée par sa déesse face à un romain adversaire lui-même de Sylla dans un imbroglio politico-militaire extraordinaire de l'année 86-85. La ville est vraiment saccagée, elle a dû probablement mettre du temps à se remettre. Je rappelle d'ailleurs que c'est tout près d'Ilion, au nord, qu'a été signée la paix entre le roi Mithridate et Sylla, en 85, la paix de Dardanos. On voit, encore une fois, les effets de tous ces événements dans le Symphonon, où les cités ont affaire à un questeur romain, membre de la famille de César, d'ailleurs, Lucius Julius César. Et le document jette une lumière assez crue sur cette triste situation financière, puisque les cités ne peuvent plus même payer l'intérêt du capital qui a été mis à leur disposition pour financer les activités de la Confédération. Mais on espère des jours meilleurs, on le dit clairement. Dans dix ans, après une période de remise de l'intérêt, on payera de nouveau régulièrement. On a un document, finalement, c'est pas le dernier peut-être, pardon, ça c'est le document qu'on verra tout à l'heure au séminaire. Ici, une inscription du 1er siècle de notre ère, où un personnage qui a la citoyenneté romaine, un notable, est honoré comme étant le prostates et cosmos, une espèce de président du Synédrion, et qui est dit ton ennea daemon, des 9 cités ou des 9 villes. Donc, alors, le koinon comptait apparemment 9 membres sous le Haut Empire. Mais ce nombre a paru pouvoir correspondre approximativement à celui des villes depuis la création du koinon à la fin du IVe siècle. Cela d'autant plus que dans le fameux Symphonon, il n'y a que 7 cités, à être représentées par des synèdres devant le magistrat romain. On a même pensé, assez souvent, que leur nombre se réduisait normalement à 5. Pourquoi 5 ? C'est parce que, précisément, il y a 5 agonothètes dans plus d'une inscription. Mais je veux dire que cette conclusion ne me paraît pas acceptable. D'abord, parce qu'il est très imprudent de penser que dans le document de 77, en une période de crise Et alors qu'il ne s'agissait visiblement pas d'une réunion régulière du Synédrion, toutes les villes aient cru nécessaire de se faire représenter. On en a 7, c'est entendu, mais ça n'est pas nécessairement la totalité des cités membres. Ensuite, parce qu'au vu des témoignages épigraphiques actuellement disponibles, on constate que 12 cités sont attestées, ou disons 10 en tout cas, plus les deux cités de la de l'extérieur, enfin qui ont été quand même à un moment ou un autre membres du Koinon, Chalcédoine et Myrla. Il y en a 10 déjà qui sont attestés épigraphiquement, et il me paraît tout à fait possible, même probable, d'admettre l'existence d'au moins du double des cités, du fait qu'on connaît leur existence en tant que poleis indépendante, comme voisine de Gargara, comme voisine de Dardanos. Si on constate que la petite ville de Roitéion, au nord de Troie, fait partie de la Confédération, pourquoi va-t-on refuser ce privilège à sa voisine Ophrynéion, hein, qui est attestée comme cité? Donc, on peut facilement augmenter le nombre, je crois, jusqu'à à peu près 20 cités. Et alors, on peut se demander aussi si le Koinon n'aurait pas idéalement tendu vers ce nombre de 23 que je mentionnais pour commencer, hein, à propos des villes de Lycie, ou plutôt 24, puisque aux 12 plus 11 villes qui avaient été attaquées, on s'en souvient, par Achille en Troade, il faudrait ajouter la ville qu'il n'avait jamais pu enlever et qu'il ne prendra jamais, c'est Troie. Hein, c'est Ilion elle-même, donc 23, 24 villes, pour donner en tout cas un ordre de grandeur. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, dont le seul mérite peut-être est de briser le carcan trop étroit dans lequel on a depuis toujours, me semble-t-il, voulu enfermer l'association des villes participant au sacrifice et à la fête. Il reste le problème central que je règle rapidement en quelques minutes, pour terminer, le problème central des agonothètes. L'idée que chaque cité pourrait ou devrait avoir eu un représentant dans ce collège a semblé assez naturelle à un savant comme Preuner, en 1926, qui notait que la Grande Ilion, en tout cas, n'en avait jamais eu plus d'un à la fois, hein, d'agonothètes. Et en 1937, dans ses études anatoliennes, beau grand livre, Louis Robert a fait sienne cette opinion. Il écrit en effet, chaque ville fédérale envoyait le sien, donc d'agonothète. Chaque ville fédérale envoyait le sien. Il ne semble pas qu'il soit revenu sur cette question dans son livre de 1966, où il a traité de tant d'autres choses, hein, en parlant des agonothètes. Il a marqué fortement que dans ce collège, il y avait une prééminence accordée clairement à Ilion, dont l'agonothète était toujours mentionnée en premier lieu, qui jouait en quelque sorte le rôle d'éponyme et dont on a vu qu'il apparaissait sur les monnaies. Sur les monnaies, autant qu'on voit, c'est toujours un Ilien, un agonothète d'Ilion. Donc le cas d'Ilion doit être considéré comme tout à fait particulier, il ne saurait valoir de normes pour les autres cités. Mais, en tout cas, il me semble extrêmement difficile de croire que le nombre de 5 correspond à celui des cités, puisque on en a, ces cités, on en a au bas mot 7, 10 ou 12. Et l'on voit que le nouveau décret que nous allons étudier tout à l'heure comporte des noms intéressants pour les membres du collège des agonothètes, le nom d'Ilion toujours, le nom de Lampsac, le nom de Skepsis, le nom de Roitéion et d'Abydos. On ne peut pas supposer que d'une session à l'autre, la participation des villes changeait. Le nombre des villes était relativement elle était relativement stable. D'où l'hypothèse que je vous présente, c'est que ce nombre qui est absolument stable de 5 agonothètes doit être, me semble-t-il, mis en rapport avec le cycle même religieux et agonistique. On sait, donc pour reprendre le tableau des cinq, on sait en effet que à Ilion se célébraient 4 éditions de la fête en mineur, en quelque sorte, les petites Panathénées, et une grande fête des Mégala Panathénaïa. C'est-à-dire en tout 5 concours dans un cycle de 4 ans, dans un cycle pentatérique. Donc, je suppose que à chaque célébration de fête correspondait un agonothète. L'agonothète d'Ilion étant le responsable des grandes Panathénées, hein, la fête principale, tandis que les Panathénées annuelles étaient confiées à des agonothètes venant d'une autre cité. Mais alors, sur quel principe élisait-on ces 5 agonothètes? Aucune, au fond, aucun principe n'a pu être dégagé jusqu'ici, me semble-t-il, et je crois qu'on peut faire en tout cas un pas de plus. Il y a donc clairement toujours Ilion, mais curieusement, on note qu'il y a toujours l'Ampsac. Or, l'Ampsac est véritablement la grande cité de l'Hellespont, à côté de d'Ilion. Beaucoup de témoignages le montrent, jusque chez Cicéron, la Praeclara Civitas des Lampsacéniens, le fameux décret de l'Ampsac pour l'ambassadeur Egesias, qui va jusqu'à Marseille et qui ensuite va à Rome pour établir l'alliance et défendre les intérêts de l'Ampsac à travers la parenté avec Troie. L'Ampsac paraît avoir donc joui au sein du Koinon d'une place privilégiée juste au-dessous de d'Ilion. Et les deux villes d'Ilion et de l'Ampsac paraissent avoir été toujours en bonne intelligence. Donc, il y a toujours un représentant de l'Ampsac. Et pour les 3 autres, eh bien, d'une certaine façon, on a voulu assurer une représentation régionale. On constate qu'il y a donc toujours un représentant de la Troie du Sud, hein, Assos, Skepsis, et donc des villes comme Gargara, Amaxitos peuvent apparaître un jour. Il y a la côte de la Troade, avec Dardanos, avec Roitéion, sans doute aussi Alexandrie de Troade. Et puis, il y a, en dehors de l'Ampsac, les villes de l'Hellespont, avec Parion, Abydos, et un jour apparaîtra peut-être Priapos ou une autre. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des circonscriptions, comme en Béotie, ou en Achaïe, ou en Étolie, mais une volonté manifeste quand même de respecter la composition géographique de la Confédération. Bon, un jour, on en saura sans doute davantage. On verra mieux ce qu'était aussi le Synédrion, la Confédération, ce conseil constitué de délégués, de députés. Une des inscriptions parle de Synédreia, c'est-à-dire la députation que chaque cité envoyait. Est-ce que cette Synédreia était la même pour toutes les cités? À travers le document du Symphonon, toujours, on voit que la plupart des cités en envoyaient 3. L'Ampsac, par accident, je pense, simplement par accident, n'en envoie que 2. Mais l'avenir nous dira, quand on aura des informations sur les petites villes, si peut-être elles n'envoyaient, elles, que 2 ou 1 représentant. Et donc, si on avait un système qui n'était pas très différent de celui de la Lycie, justement, vous savez, avec Artémidore qui dit « les grandes en ont 3, les moyennes en ont 2, les petites n'en ont qu'un ». Donc, il faudra attendre, là encore, de nouveaux documents. Mais de tout cela, il apparaît que ce koinon n'avait peut-être pas des institutions fondamentalement différentes de celles des grandes confédération dont nous avons examiné les caractéristiques, le destin dans ces quelques leçons. Il s'en dégage en tout cas peut-être deux choses de l'ensemble. C'est que, en fin de compte, on ne saurait nier l'existence en Grèce d'États fédéraux, ça, sous prétexte que ces confédérations ne possédaient pas, au moins tant qu'on voit un conseil, disons, à l'américaine, où tous les États membres étaient représentés sur pied d'égalité. Malgré tout, et malgré l'existence incontestable de confédérations d'États, dépourvues, elles, de toute citoyenneté commune, il y a bel et bien, je pense, des confédérations, des États fédéraux qui méritent ce nom et qui ne sauraient en aucune façon être assimilés à des États unitaires, comme on l'a prétendu tout récemment, à des poleis, puisque ces confédérations laissent une forte autonomie aux cités membres. Et le second point, ce serait, qui ressortirait peut-être de ces leçons, c'est que si les confédérations les plus puissantes, l'étolienne, l'achéenne, la béotienne, ont eu beaucoup à pâtir de la conquête romaine et n'ont peut-être pas survécu à cette conquête, sinon sous une forme tout à fait abâtardie, on ne peut pas dire non plus que Rome se soit opposée fondamentalement à ses associations de cités. Les exemples de l'Asie mineure le montrent, et celui de la confédération d'Athéna-Ilias également, cette confédération qui, au bout du compte, n'est peut-être pas la moins intéressante de toutes. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.